Quand on est un pro, on doit pouvoir saisir toutes les opportunités. Avec des volumes de chargement jusqu'à 22 mètres cubes, les utilitaires Renault Kangoo Van, Trafic Van et Master, assemblés en France, répondent à tous vos besoins. Découvrez notre gamme de véhicules utilitaires Renault en version thermique et e-tech électrique, prête à partir. En ce moment, 2 mois de loyer offerts.
Volume selon version, selon stock disponible. Deuxième et troisième loyer offert pour un crédit bail après paiement premier loyer d'au moins 5% de la valeur financée. Si accord DIAC, valable du 1er au 30 juin dans les points de vente participants. Conditions sur professionnel.renault.fr.
Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Avec Rémi Barré, Perico Légas, Laurent Dandrieux et Emmanuel Dancourt. Et il ne fallait pas rater, Rémi, l'accord du jour.
Oui, les premiers accords entre LR et macronistes commencent à tomber. Un accord entre des républicains et des responsables du camp présidentiel ont ainsi été conclus dans les Hauts-de-Seine pour les prochaines législatives, évidemment. Avec cet accord qui concerne notamment les candidats Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, l'actuel ministre des Affaires étrangères, LR et la majorité présidentielle comptent conserver 9 sièges macronistes et un député LR.
Est-ce que c'est une bonne chose, Pierre et Collégas, ces accords? Enfin, on a quand même l'impression que LR n'existe plus. C'est-à-dire que soit ils sont avec les macronistes, soit ils sont avec le RN, quoi.
LR était déjà, j'allais dire, philosophiquement explosé depuis très longtemps. Je peux même parler depuis 2012. Et aujourd'hui, ils ont trouvé avec cette dissolution l'occasion concrète de se répartir et de se redistribuer en fonction de leur affinité. Même au PS, il y avait ça. Il y avait, on allait de Jean-Marie Bockel jusqu'à Mélenchon. Voilà, on a vu que tout ça a explosé. Et les Républicains, il y avait trop d'écarts idéologiques, philosophiques, de sensibilité politique. Donc on a en gros un tiers qui va vers la droite nationale, et puis on a deux tiers qui va vers le libéralisme bontain de la Macronie.
Sauf que le groupe LR à la Sénat va en prendre un sacré coup. Parce que on va voir comment ça se passe. C'est maintenant, c'est sur le plan judiciaire que Éric Ciotti reste ou pas. Il faut savoir quand même que les ténors des LR ont dit que tous ceux LR aujourd'hui qui se rallieraient au RN seraient exclus du parti.
Oui, bien sûr.
Donc même si t'as un candidat LR ex-LR, j'allais dire, qui est adoubé par le RN, il fera pas partie du groupe LR
bien
à l'Assemblée.
Bien sûr.
Ça va être très compliqué parce qu'ils vont combien
vont-ils
avoir de députés à l'Assemblée
qui sont sous couleur LR? Il y en aura beaucoup. Intéressant de voir s'ils vont appliquer la même rigueur vis-à-vis des LR qui auront dealé avec la Macronie. Parce que
je ne crois pas, non.
Parce que une des raisons pour lesquelles ils ont viré Ciotti, c'était qu'ils disaient non, mais ça va à l'encontre de notre politique. On s'était tous mis d'accord pour aller à la bataille sous nos propres couleurs sans aucune alliance. Bon, on voit que effectivement du côté de la Macronie, ça tient pas trop. Gérard Larcher, pas plus tard que ce matin, démentait toute négociation avec les macronistes. Bon, c'est quand même le bal des hypocrites, cette affaire.
Dès lors qu'ils avaient perdu 70 personnes, les LR qui étaient partis chez le RN, il reste déjà plus personne.
Ça dure depuis longtemps, Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérard Darmanin.
Ce ne sont pas les députés sortants qui ont suivi.
Non, mais ça veut dire
qu'ils sont pas 70 déjà.
Les transfuges sont
62.
Les transfuges sont anciens, Bruno Le Maire, Édouard Philippe, Gérard Darmanin et d'autres qui sont. Allez, voilà,
c'est pas le bal des hypocrites, c'est l'arc républicain.
Exactement. C'est une bonne nouvelle ou pas, justement?
Il n'y a pas de flèche.
C'est finalement une autre alternative, voilà, peut-être au front de gauche.
C'est toujours une bonne nouvelle quand il y a la pluralité de vote. C'est toujours une bonne nouvelle. Après, on regarde ça.
Mais là, c'est un parti qui disparaît.
C'est surtout.
C'est
l'ancien parti. Il avait déjà disparu.
Ça, c'est clair.
C'est pour ça que je vous dis ça.
Il y a un parti qui est en train de disparaître.
Oui, c'est clair. Enfin, ça date pas d'hier. Hein.
C'est surtout une bonne nouvelle pour nous parce que toutes les 10 minutes, il y a un nouveau sujet qui tombe et depuis la dissolution, on s'en dit pas.
Le PS,
franchement, dans l'actu, perdant hallucinant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ce qui est l'essence même de la vie politique sous la Ve République, c'est qu'un parti ne peut pas exister sans incarnation. C'est-à-dire, vous aviez un président de parti qui disait je ne serai pas candidat à la présidentielle et vous aviez le candidat soi-disant naturel qui s'est enfermé dans le silence. Donc c'était un parti qui était incarné par personne. Et du coup, ça peut pas
marcher. Ils avaient quand même, encore une fois, j'insiste, mais ils avaient quand même 100 députés LR ou apparentés LR à l'Assemblée.
74.
Là, 74.
Ils avaient 95 élus pour les Républicains et 5 apparentés divers droites.
C'est ça.
Qui s'étaient qualifiés. Voilà.
Qui étaient d'accord sur à peu près sur rien.
Non, mais est d'accord. Mais là, aujourd'hui, de candidats LR, combien va-t-il en rester?
Encore 10 et encore.
Donc, s'il est un bilan absolument évident que l'on peut reconnaître au président de la République française, c'est qu'il aura depuis 2017 tué deux partis, les Républicains, c'est-à-dire le RPR et le Parti
Socialiste.
Mission accomplie.
Sauf qu'il a tué le parti dont il a besoin pour faire une majorité.
Mission accomplie.
Mais voilà. En tout cas, on se dit que d'habitude, alors, il y avait quand même 38 listes aux dernières européennes. Alors là, on se dit, s'il y a 4 listes ou 5 listes, ça va être, c'est hallucinant. Il y a un gros serment qui est incroyable.
C'est un scrutin uninominal à deux tours.
Mais j'entends, merci. Mais n'empêche qu'avant, il y avait plus de listes. Là, le choix est extrêmement réduit. Avant, t'avais 5 listes de gauche, t'avais 3 listes de droite.
Aux États-Unis, ça se passe comment? Aux États-Unis, t'as la gauche et la droite. Basta.
Non seulement il est réduit, mais il est polarisé. C'est-à-dire qu'on sait, il y aura des petits candidats, mais on sait très bien que.
Général de Gaulle doit quand même faire un petit peu ventilateur dans sa tombe, là, quelques
heures. C'est pas la première fois.
Pas vrai, frère.
Le nom du jour.
Le nom du jour dénommé les Olympiades depuis 1992. Hein. Une petite entreprise de vente d'articles de sport située dans le Nord est menacée de poursuite par le comité d'organisation des JO de Paris 2024 et ce pour violation de la propriété intellectuelle. Le nom Olympiade a en effet été déposé officiellement par le CIO. Le patron de cette société nordiste qui compte 11 employés explique avoir reçu une mise en demeure de la part du COJO qui lui laisse 20 jours à partir du 30 mai pour changer la raison sociale de l'entreprise.
Mais en vrai, c'est vraiment ridicule.
Non, mais
quoi.
Je veux dire, hein, il a 11 salariés. C'est pour déposer un nom à l'INPI. Le prix varie en fonction où tu le déposes. L'INPI, oui, ça se dépose en France, en Europe ou à l'international. Ça varie aussi si tu le déposes juste dans ton industrie ou si tu le déposes dans toutes tes industries. Donc ça peut aller jusqu'à 2000 balles. Moi, je me suis déjà fait piquer un nom comme ça d'une émission qui s'appelait Nous ne sommes pas des anges, qu'on n'avait pas déposé dans ma chaîne de télé.
Et Canal Plus nous l'a piqué.
J'en étais pas.
Canal Plus nous l'a piqué le nom parce qu'on l'avait pas. Je l'avais déposé moi en mon nom, mais j'avais pas pu le déposer. Non, j'avais pas oublié, je l'avais fait, mais j'avais pas pu le déposer avec des 1000 et des 100. Et Canal Plus nous a piqué le titre. À l'époque, on n'a rien pu faire.
Mais là, c'est vrai que c'est un peu hard, quoi. C'est une petite société. Ils en ont à faire.
C'est immonde, franchement.
Oui, c'est une violation totale de l'esprit olympique.
Il me semble pas ça.
Mais là, dans le mercredi, on a l'impression que c'est une multinationale qui fait un procès.
Ça serait le seul cas. Dans ma tête, j'ai l'impression de voir le mot Olympiade partout, dans des enseignes, des centres commerciaux, des. Non.
Il y a la station Olympiade déjà sur la ligne 14. Ils vont pas débaptiser le quartier non plus. Attends, mais t'imagines.
Ils peuvent les attaquer. Oui, chaque habitant du quartier.
Oui, c'est à ça que je pensais. C'est la station qui était descendue aux Olympiades. Je me suis dit, ils vont pas nationaliser quand même, c'est pour ça.
Bah écoute, je l'algorithme, ça va, je ne sais plus. Le blâme du jour.
C'est une première en France. Un magistrat a écopé d'un blâme de la part du Conseil supérieur de la magistrature qui avait été saisi par un justiciable. Pourquoi? Pour avoir trop tardé à boucler une affaire dont ce magistrat était en charge. Malgré une requête du procureur demandant le renvoi d'une personne mise en examen devant le tribunal judiciaire, et plusieurs alertes adressées par sa hiérarchie, ce magistrat incriminé n'avait pas trouvé le temps de faire le nécessaire pour que cette demande aboutisse. Ça durait depuis 3 ans.
Et moi, je trouve ça formidable, Perico Légas.
Vous vous rendez compte, la jurisprudence que ça ouvre
C'est génial, tant mieux.
Les dossiers.
Et tant mieux, Perico.
Ça va serrer les fesses. Hein,
là, tant mieux. Il y a des procès qui durent des fois pendant des années, en fait. Et c'est des appels sur appels. À un moment, il faut que ça s'arrête, quoi. C'est pas possible, en fait.
La lenteur de la justice. Je suis déjà dénoncé par Shakespeare dans Hamlet, quand même. Mais c'est très bien parce qu'effectivement c'est un scandale. Mais en même temps, il faudrait connaître ce cas particulier pour savoir si ce magistrat était vraiment le principal responsable de l'affaire ou si il est victime de l'incurie de l'État qui ne met pas assez de moyens.
À plusieurs reprises, il y a eu des alertes.
D'accord.
Qui lui ont été adressés par sa hiérarchie.
Par sa hiérarchie.
Fait quand même deux ans et demi maintenant. Il y a le procureur qui a adressé une alerte. Bon, il n'a pas réagi apparemment.
Autant je suis tout à fait favorable à ce qu'on sanctionne ces retards incroyables, autant il ne faudrait pas que la hiérarchie, justement, se défausse sur les sous-fils.
Je suis complètement d'accord. On l'accuse de l'avoir manqué de diligence et de loyauté vis-à-vis de ses collègues et de délicatesse vis-à-vis des victimes. Nous, à MeToo Media, on a un cas. La mise en examen date d'il y a 10 ans.
Hein?
Ouais.
Toujours pas de procès.
Ça coupe la prescription.
On est sûr qu'il y aura procès ou pas?
Alors, a priori, c'est en train d'arriver, mais au bout de 10 ans. Tu te rends compte, la victime, ça fait 10 ans qu'elle attend qu'il y ait un procès.
C'est bonjour quand on te rappelle. Après, il a raison de rappeler les faits. Tu vois,
la justice, elle manque de moyens. Terrible. Mais on peut se dire que dans ce cas-là, s'ils font une première comme ça, c'est qu'il a dû pousser le bouchon un peu loin.
Oui. Alors après, tu as aussi, encore une fois, des possibilités d'appel, sur appel, changement de cours, etc. Et en fait, tu as des possibilités de recours qui sont certainement aussi trop grandes et qui empêchent que certaines affaires soient jugées. Et ça aussi, c'est un problème. L'arrêt du jour.
La production de bouteilles d'un litre d'eau gazeuse Perrier a été suspendu en raison de problèmes sur plusieurs sources. Pour sa part, la maison mère de Nestlé Waters évoque une opération de maintenance régulière. Mais on sait que l'entreprise a déjà dû cesser d'exploiter en avril l'un de ses forages à la demande de l'État et détruire au moins 2 millions de bouteilles, et ce après la découverte de bactéries d'origine fécale dans ses sources. L'exploitation de deux autres puits utilisés pour produire de l'eau minérale naturelle a été depuis suspendue pour désinfection.
Ça vous inquiète, Perico, parce qu'on se dit que, ok, là, c'est Perrier, mais c'est Perrier, c'est d'autres marques aussi.
Alors, c'est le phénomène qui m'inquiète. Ça veut dire l'urbanisme aujourd'hui qui s'étend sur des zones où il y avait des gisements d'eau de source ou minérale, hein, qui doivent être totalement purs. C'est une des fiertés de la France. Oui. On a le patrimoine avec certains pays européens, mais nous, dans notre diversité, et je suis un grand dégusteur d'eau, donc je peux vous dire que je la reconnais à l'aveugle, hein, l'eau minérale. Ça veut dire que les gisements sont touchés par un urbanisme qui n'arrive pas à contrôler la canalisation des égouts, et vous avez l'eau des toilettes qui va dans
c'est embêtant.
C'est très emmerdant. C'est
embêtant. Il faut savoir que pour tout ce qui est eau de source, eau minérale, il est interdit de traiter ces eaux.
Ah non, mais c'est...
On n'a pas le droit
Parce qu'elles sont minérales.
Non, mais il faut le préciser. Voilà, on n'a pas le droit de les désinfecter, donc elles doivent être restées pures.
Et c'était validé par l'Académie de médecine, c'est marqué sur l'étiquette. C'est un trésor que nous avons. Si vraiment, non, c'est pas possible.
Ça vous rappelle rien? Une pub en 1990 qui avait été faite par Seguela avec une bouteille de Perrier qui pleurait, un chapeau mexicain qui disait pardon. En 1990, aux États-Unis, on a fait du benzène. Dans les bouteilles de Perrier. Il y avait déjà eu un scandale aux États-Unis.
C'était une erreur humaine. Par la mise en bouteille.
Ouais, c'était quand même Perrier.
Ça avait été terrible. La maison Perrier avait perdu. Enfin, Nestlé avait racheté à cette occasion-là.
Ouais. Finalement, il y a moins de risques avec l'eau du robinet, parce que là, pour le coup, elle est extrêmement...
Vous mourrez d'autre chose.
Ça dépend où.
Vous mourrez d'autre chose.
Non, moi, je bois l'eau du robinet.
Quand je dis mourrez, il y a toujours des produits... Non, il y a du chlore.
Oui, mais elle est potable. Mais
d'accord, mais est-ce que tu préfères... Moi, je préfère... Enfin, je ne vais pas vous faire un « tu préfères » qui est le podcast d'Estelle Midi. Tu préfères le chlore ou les matières fécales. Mais je veux dire, à choisir, je prends le chlore.
Oui,
et surtout, c'est une marque qui s'est basée sur la pureté, en plus.
Sud de la France, pardon. Des études récemment, très officielles, montrant que dans certains endroits, l'eau du robinet, il y avait des problèmes aussi, hein. Donc voilà.
Normal.
Oui, mais on est quand même obligé de boire. Enfin, j'aurai un moment de boire de l'eau. Parce que sinon, on va mourir.
Maintenant, je sais pourquoi.
Ça va être de pire en pire.
La crise du jour, Rémi.
Le nombre de faillites d'agences immobilières explose et il devrait dépasser son record d'attente de la crise de 2009. Avertissement lancé par la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM. Entre mai 2023 et avril 2024, 1120 agences ont fait faillite, soit plus de deux fois plus en un an, plus 114%. Les conséquences sur l'emploi touchent surtout les agents commerciaux, on le sait, qui sont à leur compte très souvent et rémunérés à la transaction. Leur nombre a fondu de 15% en moins d'un an.
Alors, je vais dire un truc terrible, mais est-ce qu'il n'y avait pas trop d'agences immobilières?
Si.
Parce que dans certaines rues, t'as l'impression qu'il y a 10 agences, quoi. Donc, c'est pas possible de continuer comme ça.
Bien sûr, ça veut dire que le marché a une forte stagnation et que donc l'activité se résout. Il y a aussi beaucoup de... On les sollicite de moins en moins. Oui. Les notaires s'y mettent aussi un petit peu. Et là, je vois les cabinets d'assurance vont fermer parce que les banques font de l'assurance. Et donc, les cabinets d'assurance... Donc, on est en train de tuer des filières... Justement parce qu'il y a des gens qui peuvent faire de la concurrence déloyale.
Là, c'est la crise immobilière qui est directement en cause.
La crise immobilière est en cause, mais moi je suis étonné depuis quelques années que ce secteur ne soit pas plus en crise que cela, parce que je suis étonné que les ventes de particuliers à particuliers ne se développent pas davantage, parce qu'aujourd'hui avec Internet, Dieu sait que c'est très 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 facile de vendre un bien sans passer par une agence. Alors, évidemment, c'est toujours un peu... Voilà,
c'est moins de paperasse, en fait.
Vous n'avez pas la qualité de conseil qui va avec, mais c'est moins de paperasse, et puis c'est moins de...
Mais c'est moins de paperasse, quand tu passes par une agence, c'est quand même une sécurité, tu leur files les clés, il faut visiter ton bien.
Financièrement, je suis désolé, mais ça fait une belle différence.
Les transactions sont devenues difficiles, le financement est de plus en plus difficile, les contraintes sont de plus en plus grandes, donc c'est pas étonnant, et ça devrait continuer, en réalité. Ça va certainement continuer, on va observer ça, mais...
Oui, mais effectivement, t'as tellement d'agences. Moi, je m'étonne. Oui. En fait, finalement, alors c'est déjà énorme, ce nombre de faillites, mais il y a certaines rues, mais t'as l'impression que c'est y a que les agences, les opticiens et des prothèses auditives. Donc, il y a quand même un moment où. Les coiffeurs souffrent aussi. Il y a de moins en moins de coiffeurs.
Je dis ça parce que dans la France périphérique, c'est souvent les derniers commerces qui résistent.
Ah oui. Et l'instabilité politique du moment favorise pas du tout les achats.
Non, ça va pas gêner le coiffeur, a priori.
Mais les agents immobiliers, pardon.
Mais sur l'immobilier,
les gros investissements.
Oui, et je suis d'accord avec toi.